les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé, et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents ingénieurs, parents journalistes, parents médecins. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte et de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-ils? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Maïra qui va répondre à mes questions. Bonjour Maïra.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es étudiante, élève, auditrice, ton niveau, donc si tu as un L3, M1, LRT, etc. et ta discipline, s'il te plaît?
Alors moi, du coup, je viens de finir mes 4 ans à l'ENS, donc j'étais normalienne étudiante en biologie et je suis en train de commencer une thèse à Grenoble, toujours en biologie.
Et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques petites questions qui ont l'air anodines mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
Donc j'ai grandi à Blois, qui est une ville entre Tours et Orléans, à peu près à mi-chemin en longeant la Loire. Donc c'est en Touraine. C'est pas une très grande ville, mais c'est pas très loin de Paris aussi.
Est-ce que tu es déjà allée à l'étranger, et si oui, combien de fois?
Oui. Du coup, la première fois que j'étais partie, ça devait être en 5e, je devais avoir 11-12 ans. Donc, c'était dans le cadre d'un échange scolaire, et j'étais partie au total 4-5 fois au collège-lycée, toujours dans le cadre d'échange scolaire. Après, je suis partie dans le cadre de stages en Angleterre aussi, en L1, non, L2 et en M1 aussi.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Non, jamais.
Tu avais quel âge quand tu es allée au musée pour la première fois?
Alors moi, ma maman a travaillé dans un musée jusqu'à mes 2 ans, donc je pense que j'étais très très jeune. Enfin, elle a dû m'y emmener quand j'étais toute petite. Et sinon, comme j'ai une grand-tante qui habite à Paris, on y allait aussi dès qu'on était toute petite, en fait. Au musée des sorts naturels, par exemple.
Est-ce que tu as déjà sauté une classe? Et si oui, combien?
Oui, j'ai sauté le CM1, donc une classe.
Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
Je sais pas si c'était mon préféré à ce moment-là, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est Le temps des miracles de Anne-Laure Bondou, qui parle d'un point de vue d'un enfant qui fuit un pays en guerre et qui cherche asile en France.
Bon, maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors, ma mère, elle a pas mal bougé niveau métier, donc elle travaille dans un musée, elle a été secrétaire médicale, un moment elle a repris des études d'infirmière, il y a aussi une période où elle était au chômage, et actuellement elle est AESH, donc c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap au collège. Mon père, il a aussi, ouais, il a eu des périodes d'inactivité, actuellement il est aide-soignant aux dernières nouvelles. Mais comme mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, en fait, j'étais plus Enfin, d'un point de vue sociologique, je pense que je suis plus liée à ce qui se passait au niveau de ma mère que de mon père. Parce que je vivais avec elle.
Et parce que quand tu dis que ta mère travaillait dans un musée, tu sais quel poste elle occupait ?
Ouais, elle était coordinatrice pédagogique et elle aidait à la com aussi, je crois.
Et est-ce que tu as un peu une idée de à quoi ça correspond en termes de CSPX, que c'était pour ta mère ou ton père ?
Pas du tout. Enfin, je sais pas trop pour ma mère.
Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais tout simplement te demander comment est-ce que tu vas là maintenant ?
Là, ça va, très bien.
Et comment ça allait ? Enfin, parce que donc là, tu es en thèse, tu viens de le dire. Comment ça allait, par exemple, pendant ta dernière année à l'ENS ?
Bah, du coup, ma dernière année à l'ENS, j'étais pas trop à l'ENS. Parce que c'était une année où je faisais que des stages de recherche. Donc, j'étais pas trop. Enfin, j'étais pas dans l'environnement ENS en fait.
Mais t'as bien vécu cette année ?
Ouais, ça allait plutôt bien.
Et donc là, on va revenir sur ce que tu faisais avant l'ENS. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait ? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait une prépa, une fac, dans quelle discipline ? Et d'une part, à quel point l'ENS était ton but absolu ? Et d'autre part, à quel point est-ce que tu pensais que tu serais prise sur une échelle de 1 à 10 ?
Ok, alors, je réponds dans l'ordre question. Moi, après le bac, du coup, j'ai fait un double cursus sciences-histoire à la Sorbonne. Ensuite. Donc c'est au milieu de la L2, j'avais lâché l'histoire pour prendre des cours au Muséum d'Histoire Naturelle, mais j'étais toujours à Paris. Et j'ai rejoint l'ENS en L3. Ensuite, la question, c'était...
À quel point l'ENS, c'était ton but absolu ?
Ouais, alors, de base, pas du tout. Moi, j'avais deux grandes cousines qui étaient rentrées par l'ENS, enfin, qui étaient rentrées à l'ENS, et c'était un peu les premières de la famille à faire des longues études. Donc je savais que ça existait assez jeune comparé à beaucoup de personnes qui sont pas de ce milieu-là. Mais c'était pas forcément un but parce que déjà la voie pour y rentrer. Et c'est vrai que comme on savait que on pouvait avoir un salaire à l'ENS, c'était quand même... Enfin ma mère nous disait que si on voulait faire des études longues, c'était vraiment une voie à considérer parce que financièrement c'était plus facile pour elle quoi, et ce serait plus facile pour nous. Mais une fois que j'étais lancée dans les études, c'est pas forcément... un but particulier.
Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu pensais être prise ?
À la base, je pense peut-être 2 ou 3. Mais moi, j'avais rejoint l'association Article 1 qui lutte pour l'égalité des chances, donc en sortant du bac. Et j'avais un programme de mentorat, en fait. Et moi, mon mentor, c'était quelqu'un qui avait fait l'ENS Ulm et qui était en géosciences. Et du coup, pour tout ce qui est candidature, etc., il m'a pas mal aidée pour l'aide de motivation, CV, etc. Et il m'a dit que clairement, vu mes résultats, j'avais clairement mes chances d'être prise. Donc c'est ça qui m'a un peu rassurée. Il disait qu'en gros, il n'y avait pas forcément de raison que je ne sois pas prise. Surtout que j'étais quand même dans un double cursus qui était un plus quand on vient de la fac, quoi.
Et donc même si cette personne-là t'avait rassurée, tu étais quand même sur une échelle de 2 à 3 sur 10 ?
Non, à la base j'étais 2 à 3, après j'étais peut-être plus à 8, parce que moi j'ai candidaté sur dossier, j'étais pas sur... pour Ulm, il y avait plus de sélection, donc ça j'étais pas trop sûre, mais je l'ai pas eu. Et pour Lyon, ouais, j'étais plus peut-être à 7-8 à la fin, quoi.
Et parce que du coup, juste pour bien comprendre, donc tu entres en L1, donc en sciences-histoire, c'est ça ? Ouais. Mais après t'arrives à l'ENS en biologie, donc t'as abandonné la partie histoire.
Ouais, c'est ça. Et en biologie, à l'ENS, on n'a pas beaucoup de temps forcément pour... aller voir ailleurs d'autres médecins. Enfin, il y a certaines personnes qui le font, mais c'est assez rare.
L'ENS est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup, mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou pas, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis de rebondir ou en tout cas d'avancer ?
C'est une question difficile. c'est pas forcément un... Enfin, pas vraiment, c'est un échec... Pas, enfin c'est plus personnellement, je le prends un peu comme un échec, c'est que moi déjà je suis quelqu'un de très stressé, enfin surtout à la sortie du lycée où j'avais pas mal de problèmes d'anxiété à gérer, etc. Et une des raisons pour laquelle j'ai arrêté l'histoire en fait à la fac, c'est que j'arrivais pas à forcément gérer ce stress et que ça me rendait un peu malade en fait, alors que j'avais des notes qui étaient quand même bonnes. Et c'est d'avoir peut-être pas su assez gérer ce stress à ce moment-là, et ça m'a fait arrêter l'histoire alors que j'aurais peut-être pu continuer, avoir mes deux licences, etc. et avoir un tout autre parcours. Mais peut-être ça.
Est-ce que tu as d'autres difficultés ou d'autres échecs qui te viennent en tête, ou c'est vraiment l'échec principal qui t'a coûté aujourd'hui, ou en tout cas que tu as réussi à dépasser ?
J'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête à ce moment-là. Après, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais ça me vient pas en tête.
là, le stress dont tu parlais, donc ce stress d'avoir abandonné l'histoire, est-ce que tu as l'impression que ça t'a quand même permis d'avancer, de rebondir? Enfin, tu sens que tu t'es détachée de ça et que c'est derrière, maintenant c'est derrière toi?
Ouais, bah du coup, ça m'a poussée à me dire, ok, enfin, faut vraiment que j'apprenne à faire un peu avec mes problèmes, enfin, ouais, tout ce qui est anxiété, etc., d'apprendre à les gérer pour quand même réussir à faire des choses, mais aussi à les écouter pour pas trop me mettre dans des situations de stress intense, quoi. Donc c'est aussi, ça permet d'apprendre. Après, j'ai arrêté l'histoire, mais c'est aussi parce qu'en fait, je pouvais prendre des cours qui m'intéressaient énormément. Donc c'était pas... Ouais, c'était à la fois, ça me permettait de faire d'autres choses qui étaient tout aussi intéressantes, et en même temps de peut-être plus prendre soin de ma santé mentale en mettant dans une position où ça allait mieux, quoi.
Donc tu dirais que globalement c'est un échec heureux ou un échec positif?
Ouais, on peut qualifier ça comme ça.
Et une fois à l'UNS, qu'est-ce qui t'a fait ressentir que tu appartenais à un milieu social ou économique différent?
Bah en fait, c'est souvent, bah déjà en tant qu'étudiante à l'ENS, quand il y a tout le monde autour de soi qui a des salaires et que toi, tu as ta bourse du Crous, alors que les gens qui ont des salaires, ils ont des parents qui gagnent très bien leur vie et qui en plus déjà aident leurs enfants qui ont eux-mêmes un salaire. Enfin, ouais, et que toi, bah, tu n'as pas de salaire, tu as ta bourse et que tes parents sont en galère, c'est un peu, enfin, ouais, tu te sens un peu en décalage, quoi. Et oui, enfin, quand tu parles de... Par exemple, ce qui revient avec tes questions, c'est quand les gens vont à l'étranger pour des vacances, etc. Quand ils vont beaucoup faire du ski, quand ils sont petits, qu'ils ont fait plein plein de choses, bah tu sens que t'as pas eu le même contexte économique que les autres.
Parce que je sais pas, est-ce qu'en arrivant à l'ONS, il y a vraiment eu des moments précis, parce que donc là tu parles un peu de généralité, enfin de quelque chose que tu as ressenti sur les 4 ans où tu étais à l'ONS. Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes un peu plus précises sur justement ce sentiment de décalage?
C'est un peu plus précis. Après, moi, ça commence à remonter un peu quand même la L3. Mais par exemple, quand les gens vont partir tout le temps, rentrer chez leurs parents le week-end, etc. Enfin, déjà, il y a l'aspect quelles sont tes habitudes de relation avec tes parents, proximité ou pas proximité. Mais au-delà de ça, il y a aussi bah, le train, ça coûte cher. Et que quand toi, tu galères à juste rentrer pour Noël et que des gens peuvent partir tous les week-ends, tu sens déjà un petit décalage par rapport à ça, quoi.
Mais donc tu dirais que globalement le décalage était presque plus économique que culturel?
Oui, totalement. Bah, culturellement, enfin, comme moi, j'avais un... Enfin, ouais, ma mère nous a, enfin, pas poussé, mais pas mal encouragé. Bah, déjà, elle nous emmenait au musée très jeune. On faisait de la danse classique, conservatoire. Donc, c'était pas elle qui nous imposait. Enfin, c'était nous, à la base, qui demandions. Mais du coup, on a une formation assez... Bah, plus des classes socio-économiques élevées, on va dire. Parce que conservatoire de musique, c'est pas un niveau... Je sais pas comment dire. Niveau... diversité sociale, etc. C'est pas ouf. Donc on se retrouvait déjà avec des gens qui n'étaient pas forcément du même milieu que nous d'un point de vue économique. Mais culturellement, bah, on avait l'habitude en fait de se sentir un peu en décalage aussi, quoi.
Et justement, par rapport à cette question de décalage, comment tu définirais le syndrome de l'imposteur?
Je dirais que c'est ouais, une différence entre ce que les gens projettent sur nous, enfin, ce qu'ils pensent de nous, enfin ce qu'elles pensent de nous, comment on est, enfin nos capacités, etc. Et ce que nous on pense de nous-mêmes en fait.
Donc ça serait une différence de comment les gens te perçoivent et comment toi-même tu sais comment tu fonctionnes? Enfin,
Ouais,
quelque
ça
chose
peut être
comme
ça.
ça.
Après, ça, je pense que ça peut s'appliquer à pas mal de niveaux. Donc ça peut être au niveau des compétences, par exemple, où t'as l'impression que non, t'es là par un coup de chance, c'est pas parce que t'as les compétences pour. Et ça, enfin. Moi, je pense que ça peut aussi être, par exemple, si les personnes sont persuadées que tu viens du même milieu qu'elles, alors qu'en fait, bah, toi, tu viens pas vraiment du même milieu, mais tu as quand même quelques codes en commun. Ou du coup, tu as un peu une sorte d'imposture dans leur classe sociale.
Et justement, est-ce que le syndrome de l'imposteur, ça te parle?
Oui, du coup, oui. Enfin, maintenant, de moins en moins, parce que bah, déjà, je suis plus trop à l'ENS et que aussi, j'en parle. Enfin. Ça me parlait beaucoup, donc déjà quand j'étais plus jeune, de la danse classique, au conservatoire de musique, pas mal. Ensuite, ouais, à la Sorbonne, en histoire, il y avait, enfin, on était pas mal avec des gens qui étaient à Sciences Po Paris. Donc ça, on avait, enfin, c'est des personnes qui sont toujours, enfin, généralement, ce qu'on avait l'impression, c'est que c'est des personnes qui étaient toujours hyper sûres d'elles, avec plein plein de connaissances, beaucoup de culture. Et ouais, il y avait, enfin, on ressentait un peu un décalage par rapport à ça. Après, oui, bah, l'ENS. Mais à force d'en parler, je pense, avec plusieurs personnes, on se rend compte qu'on n'est pas isolé. Enfin, il y a d'autres personnes aussi qu'on se ressentit là. Et du coup, on se sent moins parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à ressentir ça.
Et ça va un peu avec la question que j'allais te poser ensuite, c'est-à-dire comment tu essayes de lutter un peu contre ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que tu fais pour prendre confiance en toi, en ta capacité? Est-ce que là, tu parlais du fait d'en parler, de ne pas être seule. Est-ce que c'est quelque chose qui aide? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, donc déjà, au-delà d'en parler, il y a... Enfin, moi, par exemple, dès le départ, j'ai essayé de faire beaucoup de stages parce que j'avais besoin de me rassurer, de me dire « Ok, j'apprends des choses ». Et du coup, ça permet aussi... En fait, comme à force de se confronter aux autres, on se dit si les gens disent toujours que « Oui, bah t'arrives à bien faire ça » et ont des critiques positives vis-à-vis de toi, bah en fait, au bout d'un moment, t'es un peu obligé d'admettre que « Ok, enfin, il y a quelque chose que j'ai... Enfin, j'ai des compétences, j'ai des connaissances ». Et oui, donc à la fois, ouais, commencer à faire des stages très tôt, ça m'a vraiment aidé au niveau confiance en moi. Et aussi, tout ce qui est associatif, en fait. Parce qu'il y a, enfin, il y a beaucoup d'horizontalité, généralement. Enfin, après, ça dépend des milieux, mais on essaye de se dire les choses quand il y a des choses qui vont pas. Et ça permet, enfin, tout le monde commence un peu en même temps, enfin, surtout à l'ENS, où au départ, on n'a pas forcément les compétences et on les acquiert ensemble. Et ça se complète plutôt bien. Donc ça permet de se rendre compte aussi, ok, j'ai quand même réussi à organiser tel événement, à faire ça, ça a bien marché. Et on peut pas dire, c'est pas moi qui fais ça, parce que en fait, quand t'es tout seul, ou que t'es deux, trois à le faire, bah, au bout d'un moment, t'as forcément une part de responsabilité un peu dans la réussite des choses, quoi.
Ouais, donc si je résume, ce qui t'a aidé, c'est d'une part de faire beaucoup d'expériences, donc d'être beaucoup sur le terrain d'acquérir des compétences qui ne sont pas juste intellectuelles, ou en tout cas qui s'apprennent sur le terrain, et le fait de commencer quelque chose où tout le monde commence, et donc tout le monde a le même niveau au départ.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a vraiment une notion de collectif, à la fois d'en parler aux autres, apprendre en stage avec les autres et avoir des retours sur ce que tu fais. Et apprendre avec les autres par l'associatif aussi, quoi.
Donc, typiquement, le syndrome de l'imposteur, souvent, on peut considérer que ça a tendance à isoler. C'est justement aller contre l'isolement en étant avec les autres.
Ouais, je pense que c'est plutôt ça. En plus, ça joue... Enfin, moi, je faisais pas mal... Enfin, j'ai pas eu vraiment de diagnostic par rapport à ça. Mais je pense que je faisais pas mal d'anxiété sociale. Enfin, j'en ai toujours un peu, mais ça s'est beaucoup calmé. Et vraiment, ouais, aller vers les autres, en fait, plus tu te confrontes à quelque chose, parfois, mieux ça va. Ça marche pas forcément toujours, mais dans beaucoup de cas, je pense que ça aide.
Tout à l'heure, on parlait de ta famille, de ta mère, de ton père. Comment ta famille vit le fait que tu sois à l'ENS? Et est-ce que tes rapports avec elle ont changé?
Alors, du côté de mon père, en vrai, je sais pas trop. Du côté de ma mère, je pense qu'elle est fière et rassurée parce que t'as un peu ce côté, si tu vas à l'ENS, tu mets un peu toutes les chances de ton côté pour t'en sortir. Ce qui est... Enfin... Ça se débat parce que la recherche, c'est pas forcément un milieu très facile et c'est pas forcément ce vers quoi on va en sortant de l'ENS. Mais en fait, je pense par rapport à l'épanouissement que ça peut apporter avec l'associatif, etc., je pense que c'est ça qui fait que bah, elle est contente pour moi. Mais même si j'étais allée dans d'autres domaines, à partir du moment où ça me convient, je pense que ça la rassure. Mais si en plus, dans sa tête, ça promet que j'aurai peut-être plus de stabilité plus tard parce que ça fait joli sur un CV. C'est quand même mieux, quoi.
Bah donc là, tu disais que ça rassurait ta mère, malgré donc le fait qu'il n'y ait pas de salaire, parce que au départ, c'est quand même aussi pour ça qu'elles en parlaient à la base, il me semble.
La question du salaire, c'est sur le moment vraiment, mais sur les débouchés, ça joue pas forcément toujours.
Et du coup, donc là, tu parles du fait qu'elle soit rassurée. Est-ce que tu as l'impression que, outre ce côté où elle se sent peut-être mieux, enfin, elle est heureuse pour toi, ou en tout cas, elle est rassurée vis-à-vis de ton avenir, est-ce que tu as l'impression que tes rapports avec ta famille a changé? Les rapports ont changé.
Pas par rapport à ça, non.
Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un modèle pour d'autres un jour?
Alors, du coup, il n'y a pas une personne en particulier. Enfin, je pense que c'est pas mal l'entourage, les personnes qui arrivent à combiner vie professionnelle et plein de choses côté personnel, associative, etc. Du coup, qui vont faire des projets différents en fonction de leurs convictions. Ouais, je trouve que c'est pas mal inspirant de voir que bah, c'est possible, en fait, de jouer sur plusieurs plans à la fois, de les combiner tout en allant plus ou moins bien. Mais enfin, il y a quand même des personnes qui arrivent à tout gérer à la fois, quoi.
Ouais, donc pas forcément de modèle précis avec une personne en tête, mais plutôt un groupe ou une faculté ou une capacité à gérer plusieurs choses en même temps.
Ouais, et aussi, du coup, à respecter un peu ses valeurs et ses convictions. Donc, et enfin, Du coup, c'est souvent en lien avec le fait de pouvoir avoir de l'impact positif en fait sur les autres, de pouvoir aider les autres par des engagements, je sais pas, oui, par exemple par rapport à l'égalité des chances. Ça peut être des choses un peu faciles. Enfin, c'est juste réussir à discuter avec des gens qui, enfin, des lycéens, lycéennes sur leur orientation, à conseiller, à échanger, témoigner ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est hyper important. C'est pas forcément hyper compliqué, mais il y a pas grand monde qui le fait quand même. Et il y a quand même des personnes qui se donnent à fond sur des thématiques comme ça tout en faisant d'autres choses et je trouve ça génial quoi.
Eh ben, merci beaucoup Mayra pour avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Brunner et diffusée sur Transistor.